Chapitre 26. Dans la petite salle de conférence du bâtiment principal, Tamwail de Sorb écoutait Dorsvenabili avec une colère et une confusion grandissante. Finalement, il éclata. « Impossible !» Il se frotta le menton, puis poursuivit prudemment. « Sans vouloir vous offenser, docteur Venabili, vos suggestions sont ridicules, ne peuvent pas être exactes. Il est inimaginable qu'il y ait au sein de ce projet des sentiments meurtriers justifiant vos soupçons. Je l'aurais obligatoirement remarqué, or je vous garantis que ce n'est pas le cas. »
« Oh, mais si, » fit Dors buté, « et je vous en trouverai même la preuve. »
« Je ne sais comment vous le dire sans être brutal, docteur Venabili, mais lorsqu'un esprit ingénieux et obstiné tient absolument à démontrer quelque chose, il arrive toujours à trouver des preuves, ou en tout cas à ce qu'il estime être des preuves.
Me trouvez-vous paranoïaque ?
Je crois que dans votre sollicitude pour le maestro, sollicitude que je suis bien loin de vous reprocher, vous vous êtes, dirons-nous, emporté. »
Dors marqua un temps pour méditer la remarque de son interlocuteur.
« En tout cas, vous avez raison de dire qu'un esprit ingénieux et obstiné trouve des preuves n'importe où. Vous, par exemple, j'aurai de quoi vous mettre en accusation. »
De Sorb agrandit les yeux, complètement éberlué.
« M'accuser ? Moi ? J'aimerais bien savoir quels arguments vous pourriez bien faire valoir. »
« Très bien, puisque vous y tenez. »
« La fête d'anniversaire, c'était bien votre idée, non ?»
J'y ai pensé, oui, mais je suis sûr que je n'étais pas le seul. Le maestro se plaignait tant de vieillir que cela paraissait un bon moyen de lui remonter le moral.
D'autres y ont songé, soit, mais c'est quand même vous qui avez insisté et enflammé ma belle-fille sur la question.
Vous l'avez persuadée d'organiser des festivités de grande ampleur. N'est-ce pas ainsi que ça s'est passé?
Je ne sais pas si j'ai eu de l'influence sur elle, mais même si c'est vrai, quel mal y a-t-il?
A priori aucun. Mais organiser des célébrations d'une telle ampleur et d'une telle durée revenait à faire comprendre aux hommes de la junte, par nature instable et méfiant, que l'extrême popularité d'Harry risquait d'être un danger pour eux.
Personne ne pourrait imaginer qu'une telle idée me soit passée par la tête.
Je ne fais qu'évoquer une possibilité.
En préparant les festivités d'anniversaire, vous avez tenu à ce qu'on débarrasse les bureaux centraux.
Temporairement,
pour des raisons évidentes,
et à ce qu'il reste totalement inoccupé un certain temps.
Tous les travaux ont été suspendus durant ce laps de temps, sauf ceux de Hugo Amaril.
Je pensais que cela ne ferait pas de mal au maestro de prendre un peu de repos avant les festivités. Ce n'est sûrement pas vous qui vous en plaindrez.
Mais cela voulait dire que vous pouviez consulter d'autres personnes dans les bureaux vides, et ce dans la plus parfaite discrétion ?
Les pièces étant bien sûr à l'abri des écoutes.
J'ai effectivement consulté diverses personnes, votre belle-fille, les traiteurs, les fournisseurs et d'autres artisans. C'était absolument nécessaire, vous ne pensez pas?
Et si l'une de ces personnes était un membre de la junte?
À voir de Sorb, on aurait cru que Dors venait de le frapper.
Je suis indigné, docteur Venabili. Pour qui me prenez-vous?
Dors ne répondit pas directement.
Vous êtes allé parler au professeur Seldon de sa rencontre prochaine avec le général en lui demandant de manière pressante de vous céder sa place afin d'assumer les risques éventuels. Le résultat fut bien sûr que le professeur Seldon insista avec d'autant plus de véhémence pour voir le général lui-même, ce qui était précisément votre objectif.
De Sorb eut un bref rire nerveux.
Sauf votre respect, docteur. Cela ressemble vraiment à de la paranoïa.
Ensuite, insista Dors, après les festivités, c'est bien vous, n'est-ce pas, qui avez suggéré qu'un petit groupe des nôtres investisse l'hôtel du bord du dôme?
Oui, et je me souviens vous avoir entendu dire que c'était une bonne idée.
Et si une telle suggestion avait eu pour but de fournir à la junte un nouvel exemple de la popularité de Seldon? Et si elle avait été arrangée pour que je sois tenté de m'introduire dans l'enclave du palais?
Aurais-je pu vous en empêcher?
Rétorqua de Sorb, dont l'incrédulité cédait le pas à la colère.
Votre décision était déjà bien arrêtée.
Dors ne releva pas. Bien entendu, vous espériez qu'en pénétrant dans l'enclave du palais,
je créerai assez de troubles pour braquer encore plus la junte contre Harry.
Mais pourquoi, docteur Venabili? Pourquoi aurais-je voulu faire une chose pareille?
Pour vous débarrasser du professeur Seldon, et ainsi lui succéder à la tête du projet?
Comment pouvez-vous me croire capable de ça?
Vous ne parlez pas sérieusement.
Vous faites exactement ce dont nous parlions tout à l'heure au sujet des capacités d'esprit ingénieux et obstinés à découvrir de prétendues preuves.
Passons à autre chose.
J'ai dit que vous avez utilisé des bureaux vides pour des entretiens privés, et que vous aviez donc pu y rencontrer l'un des membres de la junte.
Cela ne vaut même pas un démenti, si ce n'est que vous avez été entendu.
Une petite fille s'est glissée dans la pièce et tapie dans un fauteuil hors de vue. Elle a surpris votre conversation.
De Sorbe fronça les sourcils.
Et qu'a-t-elle entendu?
Elle a rapporté que deux hommes parlaient de mort.
Ce n'est qu'une enfant et elle n'a pu tout répéter en détail, mais une phrase l'a impressionnée. C'était « mort en donnant ses parts de sorbet aux siens ».
Voilà que vous passez du fantasme au délire. Si vous voulez bien me pardonner, que viennent faire ici des parts de sorbet? Et quel est le rapport avec moi?
Ma première idée fut de prendre l'expression à la lettre. La petite fille en question adore les sorbets, on en a servi lors de la fête, mais personne ne les avait empoisonnés.
Merci d'accorder cette petite place à la raison.
Puis, j'ai compris que la petite avait entendu autre chose, que sa maîtrise imparfaite de la langue associée à son goût pour le dessert lui avait fait transformer le mot en sorbet.
Et avez-vous découvert cette distorsion?
Railla de Sorbe. Il m'a semblé durant un temps qu'elle pouvait avoir entendu « ordonnancée par un de ces béotiens ».
Que veut dire ce charabia?
Un assassinat perpétré avec l'aide d'un ou plusieurs béotiens, des profanes, des non-mathématiciens.
Dorse s'arrêta, les sourcils froncés. Ses mains étreignaient sa poitrine.
« Ça ne va pas, docteur Venabili ?»
s'enquit de Sorbe, soudain inquiet.
« Si. Si. »
Elle semblait se ressaisir. Durant quelques secondes, elle ne dit plus rien et de Sorbe se racla la gorge. Il n'y avait plus le moindre signe d'amusement sur son visage quand il nota
« Vos remarques, docteur Venabili, deviennent de plus en plus ridicules. Et peu m'importe si je vous froisse. » Mais j'estime en avoir assez entendu.
Pourrions-nous couper là cet entretien?
Nous sommes presque au bout, docteur de Sorbe.
Certes, ordonnancé par un de ces béotiens est peut-être ridicule, comme vous dites. J'étais moi-même arrivé à la même conclusion. Mais vous êtes en partie responsable de la mise au point de l'électrofiltre, n'est-ce pas?
De Sorbe parut se redresser, tandis qu'il répondait avec une pointe d'orgueil.
Entièrement responsable.
Sûrement pas entièrement. Je crois savoir qu'il a été conçu par Cinda Ossien,
une technicienne. Elle a suivi mes instructions.
Une non-mathématicienne. Une béotienne. L'électrofiltre est un appareil ordonnancé par un de ces béotiens.
De Sorbe avait du mal à se contenir.
Je ne crois pas avoir envie d'entendre plus longtemps ces divagations. Une dernière fois puis-je disposer?
Mais Dorse poussait son avantage, comme si elle n'avait pas entendu. « Même si maintenant vous ne reconnaissez plus son mérite, vous l'avez fait devant elle, pour la pousser à travailler avec plus d'ardeur, je suppose. Elle vous en est d'ailleurs fort reconnaissante. Elle a même ajouté que vous aviez baptisé l'appareil de vos deux noms, même si ce n'est pas son nom officiel. »«
Bien sûr que non, c'est l'électrofiltre.
Vous l'avez ensuite engagé à concevoir des améliorations, des amplificateurs, etc. » Et elle vous a soumis le prototype d'une version améliorée de la machine.
Quel est le rapport avec tout le reste?
Depuis que Seldon et Amaryl travaillent avec l'électrofiltre, l'un et l'autre ont vu leur état se dégrader. Hugo, qui travaille plus fréquemment, est le plus atteint.
L'électrofiltre ne peut en aucun cas provoquer ce genre de dégâts.
Dorse porta la main à son front et grimaça durant quelques secondes.
Maintenant,
Vous disposez d'un électrofiltre plus puissant, susceptible de provoquer plus de dégâts et de tuer vite au lieu de tuer à petit feu. Que d'ineptie. À présent, considérons le nom de cet appareil. Un nom que, à en croire la femme qui l'a conçu, vous êtes le seul à employer. Vous l'avez appelé le filtre de Desorbe et Ossienne. Je ne me souviens pas d'avoir jamais employé cette expression, dit Desorbe mal à l'aise. Oh, mais si! Et le nouveau filtre amélioré Desorbe et Ossienne est conçu pour tuer en toute impunité. Un simple accident regrettable dû à un appareillage nouveau et pas testé. Ce serait une mort ordonnancée par Desorbe et Ossienne, qu'une petite fille a traduit par mort en donnant ses parts de Desorbe et Ossienne. Dorse porta la main à son flanc. « Vous n'êtes pas bien, docteur Venabili ?» dit Desorbe d'une voix douce.
« Je vais parfaitement bien. N'ai-je pas raison ?»«
Écoutez, peu importe les mots que vous déformez en part de Desorbe, qui sait ce qu'une petite fille peut avoir entendu, tout cela se ramène au prétendu caractère meurtrier de l'électrofiltre. Traînez-moi devant les tribunaux, ou devant une commission d'enquête scientifique, et laissons les experts, aussi nombreux que vous voudrez, mesurer les effets de l'électrofiltre, même dans sa version maintenant amplifiée, sur l'être humain. Ils ne trouveront aucun effet mesurable.
« Je n'en crois rien !» marmonna Dorse Venabili.
Elle se massait à présent le front, les yeux fermés. Elle oscillait légèrement. « Visiblement, vous n'allez pas bien, docteur Venabili. » Peut-être que mon tour est venu de parler. Vous permettez ? Les yeux de Dorse se rouvrirent, et elle le fixa sans un mot. Je prends votre silence pour un assentiment, docteur. Mon intérêt n'est pas de me débarrasser des professeurs Seldon et Amaril pour m'asseoir à leur place au poste de directeur. Votre rôle est d'empêcher toute tentative d'assassinat, comme vous pensez le faire en ce moment. Au cas improbable où je réussirais à liquider ces deux grands hommes, vous auriez tôt fait de m'écharper. Vous êtes une femme peu commune, d'une force et d'une rapidité qui dépassent l'entendement. Vous, vivante, le maestro n'a rien à craindre.
Certes, dit Dorse furieuse.
C'est exactement ce que j'ai dit aux hommes de la junte. Pourquoi n'auraient-ils pas le droit de me consulter au sujet du projet ? La psychohistoire les intéresse beaucoup, comme il se doit. Ils ont eu du mal à croire ce que je leur ai raconté sur vous, jusqu'à ce que vous ayez effectué votre petite visite dans l'enclave du palais. Cela a suffi à les convaincre, soyez-en sûrs. Et ils ont accepté mon plan.
Ah, ah, nous y voilà,
fit Dorse d'une voix faible. Je vous ai dit que l'électrofiltre ne peut nuire à des êtres humains.
C'est vrai.
Amaril et votre précieux Harry vieillissent, c'est tout, même si vous refusez de l'admettre. Et alors ?
Ils vont très bien.
Ils sont parfaitement humains. Le champ électromagnétique n'a aucun effet notable sur les tissus organiques. Bien sûr, il peut affecter des appareils électromagnétiques sensibles. Ou éventuellement, un être humain fait de métal et de circuits électroniques.
Les légendes nous parlent de tels êtres humains artificiels. Les mycogéniens ont fondé leur religion dessus, ils les appellent des robots.
S'ils existent, on peut imaginer qu'ils sont bien plus forts, bien plus rapides qu'un banal être humain, qu'ils sont dotés de qualités en vérité très proches des vôtres, docteur Venabili. De tels robots pourraient très bien être immobilisés, abîmés, voire détruits par un électrofiltre assez puissant, tel que celui que nous avons ici, celui-là même qui fonctionne au ralenti depuis le début de notre conversation.
C'est pour cela que vous vous sentez mal, docteur Venabili. Pour la première fois de votre existence, j'en suis sûr.
Dorse ne dit rien. Elle fixait toujours l'homme. Lentement, elle s'effondra dans un fauteuil. Desorbe sourit et reprit.
Bien entendu, une fois votre sort réglé, il n'y aura plus de problème, ni avec le maestro, ni avec Amaril.
En fait, le maestro, sans vous, va s'effacer et démissionner avec chagrin, tout en restant persuadé qu'Amaril est toujours un enfant. Il y a de bonnes chances qu'on n'ait à tuer aucun des deux. Quel effet cela fait, docteur Venabili, d'être démasqué après toutes ces années? Je dois admettre que vous avez fort bien dissimulé votre nature véritable. Il est presque surprenant que personne n'ait découvert la vérité avant moi. Mais enfin, je suis un mathématicien brillant, un observateur, un penseur, un homme de déduction. J'avoue que cela m'aurait échappé sans votre dévouement fanatique au maestro et ces accès de violence surhumaine que vous manifestez à volonté chaque fois qu'il est menacé. Faites vos adieux, docteur Venabili. Tout ce qu'il me reste à faire désormais, c'est pousser l'appareil à fond, et vous ne serez plus que de l'histoire. Dors parut se ressaisir. Elle se leva lentement de son siège en marmonnant
« Je suis peut-être mieux protégée que vous ne l'imaginez !»
Puis, avec un grognement, elle se jeta sur Desorb. Ce dernier, les yeux agrandis, poussa un cri et bascula en arrière. Dors était sur lui. Le tranchant de sa main s'abattit sur le cou du docteur Desorb, écrasant la vertèbre et sectionnant la moelle épinière. Il tomba raide mort. Dors se redressa avec effort et gagna la porte en titubant. Il fallait qu'elle retrouve Harry. Il devait savoir ce qui était arrivé.